BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 18-19. Tiens, on va peut-être vous demander, est-ce que vous vous sentez responsable en tant que consommateur? Puisque je recevrai dans un instant Nicolas Chabannes, c'est le patron de ce phénomène, vous savez, incroyable. C'est la marque nouvelle, figurez-vous, la plus vendue en France depuis 10 ans. Et là, dans le dernier classement Nielsen, c'est la Brique de lait solidaire, dans le classement des 50 produits les plus vendus en France, c'est vous dire. Et puis avec lui, bien sûr, on parlera des négociations commerciales. Ça commence, et ça commence déjà un peu hard. Ensuite, c'est Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance pour le Commerce. Guy Gras, président du Conseil de Commerce de France. Vous le savez, il y a 12 fédérations qui font front commun contre Chine. Ils nous diront, ils vont nous expliquer pourquoi, comment. Ils demandent des dommages intérêts. Et puis quand même, on verra, c'est l'hiver qui arrive, qui est là. Et Noël ne vont pas venir au secours de l'habillement. On le sait, qui se porte pas très bien. Mais pour l'instant, place au journal avec Stéphanie Collot.
Le journal.
Il est 18h, bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Edwige.
Et on commence par cette opération déminage du gouvernement de Sébastien Lecornu. C'était au congrès des maires de France tout à l'heure.
Effectivement, Sébastien Lecornu promet 100 suppressions de normes d'ici les élections municipales en mars prochain pour simplifier la vie des maires. Le Premier ministre leur promet aussi une prime régalienne de 500 euros par an. Concernant la hausse de la taxe foncière, le gouvernement lance une consultation face au tollé provoqué par cette augmentation. Et puis on apprend ce soir qu'en cas d'impasse sur le budget, le gouvernement présentera une loi spéciale, déclaration du ministre des Relations avec le Parlement il y a quelques minutes. Total Énergie rejette avec force les accusations de violence au Mozambique où il développe un projet de gaz naturel liquéfié. Le groupe est notamment accusé d'avoir soutenu des forces armées. Une plainte a été déposée pour complicité de crimes de guerre, de torture et de disparition forcée. Après Air France KLM, Lufthansa officialise son intérêt pour TAP Air Portugal, la compagnie qui est aussi convoitée par IAG, est en cours de privatisation. Le gouvernement portugais l'avait nationalisé dans l'urgence en 2020. Mauvaise journée en bourse pour Valeo. Le titre termine en baisse de 13%. Les marchés sont visiblement peu convaincus par le nouveau plan stratégique de l'équipementier automobile. Valeo qui joue la prudence avec un retour à la croissance en 2027. Le groupe vise une marge opérationnelle de 6 à 7% en 2028, en misant notamment sur la Chine. Chute vertigineuse aussi pour Soitec, le fabricant français de semi-conducteurs, perd 30% en cause des ventes décevantes dues au ralentissement de l'industrie automobile et télécom, dont Soitec dépend largement. Les bourses mondiales, en revanche, surfent sur les résultats de Nvidia au-dessus des attentes. Le fabricant de semi-conducteurs annonce un bond de son bénéfice net de 65% sur un an au troisième trimestre, à près de 32 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires progresse, lui, de 62% à 57 milliards de dollars. Des résultats records et on continue d'en parler tout de suite sur les marchés.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Les marchés, on est en ligne avec John Plassard. Bonsoir, vous êtes associé et responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. Ces résultats de Nvidia, ils ont porté clairement les marchés financiers en Asie, en Europe et aux États-Unis.
Oui, tout à fait. C'est absolument des résultats, vous les avez résumés, absolument extraordinaires. Il faut aussi rappeler une chose, c'est la liquidité. Ils ont dégagé plus de 22 milliards de dollars de liquidité. Donc, ils gagnent énormément d'argent. Vous savez qu'on se pose beaucoup de questions sur ces entreprises de l'intelligence artificielle qui s'endettent massivement, mais le titre avait commencé à 4% et actuellement, à l'heure où on se parle, eh bien, le titre est quasiment sans l'explication, bien évidemment, c'est que les gens s'inquiètent non pas pour Nvidia, mais notamment pour Oracle. On a sur Oracle, vous savez, les CDS, c'est les primes pour s'assurer d'un défaut qui ont triplé les primes à 5 ans sur Oracle. Et on se dit que potentiellement, eh bien, tout l'engouement autour de l'intelligence artificielle, toute la dette qui a été faite ces dernières semaines, voire ces derniers mois, eh bien, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour un groupe et notamment pour Oracle qui baisse fortement en bourse.
Donc, inquiétude sur Oracle. Autre fait marquant sur les marchés américains aujourd'hui, c'est l'emploi américain qui a porté les investisseurs.
Oui, tout à fait. On avait les chiffres de l'emploi, mais qui étaient de septembre. Et donc, on s'est dit que, en fait, l'emploi américain n'était pas aussi mauvais que ça, mais seule ombre au tableau, alors qu'on a eu près de 130 000 créations d'emplois contre des destructions de 5 000 postes en août, eh bien, on a vu le taux de chômage américain qui est remonté à 4,4%. C'est le taux de chômage le plus élevé depuis 2021. Donc, il y a un problème de ce côté-là. La réserve fédérale américaine le sait très bien, mais on a eu une mauvaise nouvelle hier soir sur l'emploi, c'est que, faute de manque de données, eh bien, le rapport de l'emploi d'octobre ne sera tout simplement pas publié et sera cumulé avec celui de novembre. Donc, la réserve fédérale américaine navigue complètement à vue avec un énorme flou.
Merci beaucoup, John Plassard. Je rappelle que vous êtes associé et responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. Et puis, un dernier mot pour le CAC qui termine en hausse ce soir de 0,34% à 7 987 points, Edwige.
Merci, évidemment, Stéphanie. On vous retrouve à 19h, 19h30, toutes les infos. Ça sera donc dans une heure. Mais pour l'instant, mon invité Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron ? C'est vous, peut-être.
BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Vous êtes enfin dans le 18-19 avec mon invité Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron ? Bonsoir Nicolas Chaban.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous venez comme toujours avec vos briques de lait, tous vos produits solidaires. Mais vous me direz, vous avez raison, parce que vous êtes le meilleur marketeur de C'est qui le patron, puisque C'est qui le patron ? C'est la marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans, ouais. Enfin même 9 ans, puisque vous venez de fêter votre 9e bougie en octobre. Ouais. Classement Nielsen qui fait référence. Et puis, la brique de lait solidaire que vous avez là, elle entre dans le classement des 50 produits les plus vendus en France. Et encore, vous n'êtes vendu que dans un grand magasin sur deux.
Donc, ouais, vous êtes bien informé si on était vendu comme les grandes marques qui sont dans ce classement, hein, Cristaline, Ricard, Coca, pardon pour les marques, on serait dans les 5 premiers. Et c'est pas pour le podium, c'est pour dire qu'il y a un produit solidaire qui se vend autant que des grandes marques, mais pas parce qu'il est le moins cher, parce qu'il est solidaire.
Ouais. C'est intéressant parce que ça fera écho, tout à l'heure on parlera de Chine, justement avec les 12 fédérations, il y en a deux devant nous qui font front commun, qui attaquent en justice, qui vendent des dommages et intérêts, donc il y a un rôle, le consommateur a un rôle, certes la question du pouvoir d'achat, on va en parler, mais il n'y a pas que, on a une responsabilité, c'est un peu comme la coke, hein, je vous disais, si personne ne prend de la coke ou de la drogue, et ben, il n'y aura pas de narco, il n'y aurait plus de narco-trafiquants. Bref, on a une responsabilité plus sérieuse. Nicolas Chaban, les négociations commerciales, elles ont commencé. C'est le 1er décembre, première étape, et puis ça sera en mars, évidemment, la clôture des négociations commerciales. Et alors vous êtes procuré la charte des négociations commerciales, la version encore un peu cachée, alors qu'elle n'est pas définitive, et vous êtes arrivé ici, vent debout, en disant « Non, mais c'est pas possible, ils n'ont toujours rien compris. » Expliquez-nous pourquoi votre colère.
Alors, je vais modérer parce qu'il y a des bonnes choses, c'est en gestation, donc c'est un espoir. Hein. Si après ce qu'on va se dire, ça peut changer, c'est quand même très bien. Il y a beaucoup de choses et de bonnes idées, notamment sur l'origine France, qui est remise en avant. Et les deux ministères disent aux distributeurs, aux PME, aux industriels, aux fabricants, mettez en avant le Made in France. Et j'ai regardé toutes ces lignes sans trouver le moindre mot sur privilégier autant que possible, des produits qui permettent aux producteurs de vivre de leur métier. On est en 2025, les producteurs disparaissent en France. Il y a des preuves comme celle-là, hein, on est une marque de consommateurs, que quand il y a le bon prix et les centimes qui vont jusqu'aux producteurs, nous consommateurs, pas tout le monde, c'est vrai, mais on est au moins 70% à pouvoir mettre les quelques centimes euros par an pour aider les producteurs. Et bien là, au moment des négos de 2025, il y a une charte portée par deux ministères en France qui oublie, on va dire que peut-être...
La juste rémunération.
La juste rémunération.
Mais je croyais que justement, au contraire, c'était l'engagement, c'était le but d'Egalim 3.
Alors, Egalim, oui, il y a 3 à 4. Ouais. En fait, il faut rester constructif et positif. Il y a plein de belles choses dans cette charte. Si ceux qui rédigent cette charte en ce moment peuvent se rappeler que sans les producteurs, il n'y a pas un produit agroalimentaire ou très peu de produits agroalimentaires qui arriveront dans nos assiettes aujourd'hui et demain, je pense que c'est justice pour les producteurs, mais pour nous aussi consommateurs. Vous connaissez le contexte actuel, il faut protéger la nourriture à nos portes. Si on ne fait pas plus qu'on ne fait aujourd'hui, les producteurs s'arrêtent, les jeunes ne reprennent pas, et vous savez ce qui va nous arriver, on va parier sur la fameuse nourriture qui vient de loin. Et franchement, dans le contexte géopolitique, il vaut mieux avoir de la nourriture près de chez nous, de qualité dont on sait tout, qui demeure pour longtemps, plutôt que
vous
de parier
avez...
sur des
bateaux. Pardon, Nicolas Chaban, mais vous avez la ligne directe de Serge Papin, hein, le nouveau ministre, qu'on connaît bien ici, évidemment.
Ouais, c'est une chance, parce que...
Bah oui, connaît... bah alors allez-y, appelez-le.
C'est une chance.
J'espère qu'il va nous écouter.
Bah, j'espère, ce message, j'espère qu'il lui parviendra. Il est très sensible aussi aux questions de la rémunération des producteurs. Peut-être, mais vous voyez, c'est des réflexes. Vous avez des gens qui, dans les bureaux, dans les ministères, travaillent sur une charte entre des fabricants et des distributeurs. Mais vous vous rendez compte, il y a 36 000 personnes au ministère de l'Agriculture, je le dis avec plein de bienveillance, il n'y en a pas un qui dit à un moment donné, attendez, il faut qu'on intègre la rémunération des producteurs. C'est très choquant pour nous, consommateurs, mais... Il suffit qu'ils le mettent pour qu'on soit tout à fait consolé.
En même temps, ce qui est étonnant lorsqu'on voit le nombre, malheureusement, de faillites d'agriculteurs, et puis alors en plus, dans le budget 2026, alors qu'il lui aussi est en, on ne fait pas très mal ce qui va se passer, son sort, enfin une partie, ça dépend du week-end prochain, mais puis même, on ne connaît pas tellement l'issue, même si le ministre en charge des relations avec le Parlement vient de déclarer qu'il y aurait une loi spéciale, ça veut donc dire qu'il va passer au forceps. Vous m'avez dit, juste avant, pour préparer cette émission, Nicolas Chaban, qu'il y aurait les aides aux agriculteurs en difficulté, eh bien 80% de ces aides devraient disparaître. On ne comprend pas très bien, là.
Alors, c'est pareil. Franchement, on essaie toujours d'être positif. Vous nous voyez rarement râler. On essaie de s'occuper du positif. Mais là, les producteurs disparaissent. Les plus en difficulté, si ces dispositions sont votées, il est prévu que pour les producteurs les plus en difficulté, on parle bien de ceux qui sont les plus fragiles, hein, pas les gros producteurs qui peuvent évidemment être résilients et s'en sortir. Pour eux, 80% d'aide en moins. Alors je sais qu'il y a des amendements qui vont atténuer les choses. On a encore la possibilité de changer. Si ce moment, et moi je me fais porte-parole des consommateurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont des difficultés. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est au centre de tout. Mais on a aussi un pouvoir de consommation en tant que consommateur.
Oui, c'est le patron, c'est nous.
Voilà, c'est nous, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors, on va clairement dire les choses. 22 à 30% des familles, on ne peut pas demander de mettre quelques centimes de plus pour les producteurs. Il faut s'occuper d'elles et trouver des solutions pour elles. Mais pourquoi on n'a jamais parlé des 70% de Français, c'est quand même quelques millions de gens, qui veulent protéger les producteurs? 4 euros de plus par an pour le lait, 1,60 euros par an par an, pour que les producteurs de pommes arrêtent d'arracher leurs arbres. Donc il faut à un moment donné qu'on ait de la transparence, des infos, et que notre bon sens de consommateur se réinvite au milieu de ce système un peu par défaut, qui vote des lois, qui crée des dispositions qui sont bien loin de ce que nous, consommateurs, on attend. On veut que les producteurs en France gagnent leur vie et vivent dignement de leur travail.
Mais en même temps, quand même optimiste, parce que vous avez augmenté le mois de septembre, était le mois le meilleur pour vous depuis votre existence, plus 10% de ventes, vous avez vendu 9 millions de produits, donc quelque part, la machine, elle est en train de se mettre en route, non ?
C'est important que vous disiez ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train, nous consommateurs, de dire il faut aider les producteurs avec un rêve comme ça qui ne tiendrait pas compte de la réalité. Depuis 9 ans, on le fait, permettez-moi de rappeler les chiffres. C'est pas pour les podiums, c'est pour que l'espoir renaisse, notamment dans les ministères, et qu'on tienne compte de ça. Les consommateurs.
Tiens, vous avez été reçu par Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, parce que la dernière fois, on m'avait dit non, on refuse de nous recevoir au ministère de l'Agriculture.
On refuse pas de nous recevoir, mais on ne nous appelle jamais. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, les sociétaires, les consommateurs, bravo à tout le monde en France, on a décidé de faire par nous-mêmes. C'est-à-dire que si on attend que les politiques nous appellent, écoute, regarde et essaie de prendre des dispositions, il vaut mieux agir par nous-mêmes. C'est la tendance du moment. Donc on est très étonné, un peu déçu que ces exemples, il y en a d'autres, hein, je veux parler de Yuka. Yuka, c'est un exemple extraordinaire. Pourquoi, à un moment donné, ça ne devient pas une loi nationale qui va protéger la transparence, l'information? Il y a d'autres exemples que c'est qui le patron? Pourquoi, dans un ministère, les radars sont finalement faits de telle manière que tout ce qui marche, on ne le voit pas? On n'appelle pas des consommateurs, on est 15 millions qui trouvent des solutions pour les producteurs. C'est la brique de lait la plus vendue de France. Alors, toujours. C'est
la marque
phare de la solidarité.
Nicolas Chaman, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec tous les grands de la grande distribution?
Oui, et l'écoute. Alors là, autant on est un petit peu déçu, on va dire ça calmement, par l'écoute quasi nulle des ministères et de l'administration. Mais les distributeurs, eux, évidemment, ils ont un intérêt naturel à écouter les consommateurs. 15 millions de gens créent des produits, marque nouvelle la plus vendue en France. Tout le monde se réveille en disant « Attendez, c'est pas que le premier prix finalement. S'il y a 70% des gens capables de mettre des centimes en plus... »
Oui, parce qu'il y a du jus de pomme, là vous êtes venu avec panier à provision.
Et d'ailleurs, petite info sur les négos commerciaux, je trouve ça très touchant. L'équipe me dit, puisqu'on savait qu'on avait cette interview, « Tu peux dire une chose incroyable, il n'y a pas finalement de négo commercial sur ces produits. Il y a un prix. En transparence que nous, consommateurs, on a décidé comme voté conseiller. Il est sur tous les produits. Mmh. Vous savez ce qui se passe? C'est la seule démarche où les fabricants arrivent en disant « Bonjour monsieur, tout le monde gagne sa vie, tout est transparent, les consommateurs sont d'accord, les producteurs sont préservés. » Ça dure 10 minutes. Les fabricants nous disent « C'est les produits, c'est qui le patron qui passe en premier parce que c'est simple. » Pourquoi à un moment donné, alors qu'il y a du bon sens, un succès sans précédent, des producteurs protégés, de la transparence pour nous consommateurs, pourquoi à un moment donné, il n'y a pas une généralisation de tout ça? Et vous voyez, la charte, quand elle arrive au milieu des négos commerciales, elle oublie totalement qu'une démarche comme celle-là peut exister. Ouais. Et ce n'est pas, encore une fois, un agacement, c'est une tristesse, sachant ce qui se passe pour les producteurs à l'autre bout.
Est-ce que quand même l'initiative qui avait été prise, justement, ils sont tous venus ici en studio, Thierry Cotillard, Dominique Schellcher, enfin presque tous, on ne va pas dire des noms. Mais en revanche, est-ce qu'il nous était dit, on va faire un coin spécial pour les agriculteurs, les petits agriculteurs, celui qui vend ses fromages de chèvre, dans les grandes surfaces?
Alors,
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche toujours? En tous les cas, là où je vais, je ne vais pas citer de marque, mais chaque semaine, je ne les vois pas.
Bah on a du mal, pourtant c'est une très bonne idée. Certains magasins le font. Hein. Récemment, Carrefour a fait un rêve pour nous, consommateurs, voulant qu'il se passe des choses un peu positives sur nos actes d'achat. Ils ont rassemblé 8 démarches avec Ramdam Social, avec Café Joyeux. Il y a C'est qui le patron? Je ne peux pas tous les citer, mais c'est merveilleux. Et tu arrives dans un univers en tant que consommateur, tu sais que partout où tu mettras ta main, tu pourras avoir un produit qui crée une conséquence positive sur le monde. Il y a des petites initiatives qui existent et qui ensuite ont du mal à durer. Pourquoi ? Parce qu'il manque toujours dans ces initiatives, et c'est valable dans les ministères et dans toutes les initiatives du monde, les consommateurs. Si on n'est pas là, nous, pour comprendre, vérifier, nous rendre compte que ça a du sens, et finalement dire au magasin, c'est très bien, fais en sorte que ça dure, les habitudes, un peu par défaut, reviennent. Et les bonnes idées disparaissent.
Hier, le président de la République était à Arras. Il a été accueilli avec des tracteurs qui bloquaient les ronds-points. Est-ce qu'elle est en train de repartir, la colère des agriculteurs, voire le désespoir des agriculteurs?
Oui, vous avez le bon mot. Il ne faut pas imaginer qu'on voit les producteurs que quand il y a un problème. Il y a un problème profond. Le problème, il est à la mesure de la patience, de la résilience, de la capacité que des producteurs ont à supporter, par exemple, de travailler 7 jours sur 7 dans le lait sans gagner sa vie. Il ne faut pas imaginer que tout est résolu. Mais quand on arrive à un niveau de trésorerie où on le vit tous les jours, tu ne peux plus remplir ton frigo quand tu es producteur. Tu fais 7 jours sur 7, hein, tu nourris les autres, tu ne peux pas remplir ton frigo. Tu ne peux pas payer la cantine de tes enfants. Nous, on a des aides, on récupère une partie de l'argent généré par les ventes et on amène ça aux producteurs. Mais comment il est possible qu'un pays, je vais le dire simplement, ne fasse pas de la protection de ceux qui nourrissent les autres une priorité? Vous vous rendez compte? On a deux exemples là, dans ce moment de partage-là. La charte de bonne pratique oublie la rémunération des producteurs.
Ouais, bon.
Et d'un autre côté, les producteurs les plus en difficulté, hein, les petits producteurs qu'on a tous envie d'aider, il y a des gens dans des ministères qui disent on va enlever 80% de l'aide à ces producteurs. Parce qu'inconsciemment, tout le monde a dans l'idée que les structures vont devenir très grosses. Mais là, il y a un autre danger. Si demain, on n'a plus de petits producteurs là, qu'on aime partout autour de chez nous, il va y avoir de grosses structures. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Un jour, il n'y a plus assez d'œuvres. Il y a eu une pénurie liée notamment à des
nous
maladies.
Aussi, on commence à avoir
plus
un problème.
Plus d'œufs aux États-Unis.
Oui.
Ils ont essayé d'en acheter dans le monde entier. Si nous, les petits producteurs, deviennent des grosses entreprises qui salarient des producteurs, le jour, et vous le savez bien, l'actionnaire principal américain, allemand ou chinois va décider que cette nourriture faite en France va chez lui, on va manquer de nourriture. Il faut qu'on se réveille. Et bonne nouvelle, on a notre carte bleue pour décider et changer toutes les lois qui n'auraient pas la bonne idée de...
Est-ce que c'est un peu le moment de vérité, Nicolas Chaban? Est-ce que vous trouvez que les Français, finalement, ils sont un peu passifs, quoi? Ils se disent pas qu'ils ont une responsabilité dans leurs actes d'achat, de comportement?
Je vais vraiment vous parler de quelque chose de positif. Là, on est passé de... On regardait le monde politique et le monde qui nous entoure avec étonnement.
Oui.
Ensuite, on a commencé à être un peu énervé. Ensuite, on a commencé à vouloir tout casser. Et c'est de plus en plus une réaction qui prend tout le monde au corps. Et là, il y a autre chose qui arrive. Je relève la tête, je me rends compte que l'argent est dans ma poche. Mais en fait, j'ai beaucoup plus de pouvoir par mon acte d'achat. Si on se met tous à acheter des produits qui ont des conséquences positives, ça ira plus vite que les lois. Donc là, il y a un réveil. Réveillons-nous tous. On a la solution à beaucoup de problèmes dans nos poches. Notre argent, c'est lui qui organise tout ce qui est autour de nous.
Il y a un fruit ou légume sur deux consommé en France qui maintenant vient de l'étranger chaque année.
Vous vous rendez compte ?
Il y a des vignes qui sont arrachées, il y a des pommiers qui sont arrachés. On voit que maintenant, il y a un poulet sur deux qui a, vous rendez compte, un poulet sur deux qui vient de l'étranger. On a vraiment notre agriculture, elle fout le camp. Pour la première fois, la balance commerciale, elle va être déficitaire. Enfin, c'est fou. On était, je crois, en troisième position, on est maintenant en sixième ou septième position dans l'agroalimentaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un réveil.
On peut se dire que
c'est quoi?
Non, le logiciel n'attendons plus. Hein, quand vous avez eu deux exemples qu'on a donnés, il y a un logiciel par défaut. Bon, tous ceux qui pensent et qui essaient de faire pour nous des règles et notamment de la protection des producteurs n'y arrivent pas. On va dire ça comme ça. Ils n'y arrivent pas. On va le faire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes. Là, on a prouvé avec cette aventure que 128 millions d'euros par an devenaient solidaires, transparents, on sait où va l'argent, à quoi il sert, on peut mesurer les conséquences. Mmh. Qu'est-ce qui va nous empêcher demain de le faire à plus grande échelle? Il faut comprendre que, par défaut, on se laisse un peu faire par, finalement, des gens qui devraient organiser un destin pour nous. Mais quand on reprend en main le destin, on a des chiffres concrets. 22% de familles ne pourront pas le faire. Mais il faut que les 80 ou 70% qui peuvent le faire puissent le faire. Dans les rayons, si par défaut il n'y a que du premier prix, on n'aura jamais de solution.
Il y a le grand négo à ce moment. Juste sur les négos commerciales, elles se passent mal?
Ah non, mais c'est un tour. Non,
mais au-delà de ce qu'il patron.
Ça se passe toujours mal. Et merci de le préciser. Vous savez ce qui se passe sur ce qu'il patron? C'est pas pour dire ce qu'il patron, ce qu'il patron. Ah. C'est pour dire ce système créé par les consommateurs.
On en a parlé. D'une manière générale, et puisque vous êtes au courant de tout, est-ce que ça se passe comment?
Il y a une tension. Je vais essayer de le simplifier. Pardon, c'est un peu profane. Tu arrives avec tes produits. Le distributeur, il a une chose en tête. Il faut que j'achète le moins cher possible pour vendre le moins cher, parce que si mon confrère est moins cher, bon. Et là, on est dans un truc par défaut où il y a tout vers le bas.
Ouais.
Vous savez ce qui va arrêter tout ça?
Non.
Et même les producteurs et les distributeurs seront ravis. La transparence. Dites-nous exactement si c'est un juste prix et qu'on peut comprendre que personne ne se fait avoir. Le patron final, nous les consommateurs, il n'y a pas un plus grand patron que nous. On va dans les magasins.
Vous revenez parce que vous êtes un homme de marketing fabuleux. Mais est-ce que vous savez un peu les tensions va être sur le cacao, sur.
Après, il y a effectivement un contexte mondial qui recrée avec la dimension climatique. Il faut que tout le monde se réveille aussi sur ces aspects-là, une nouvelle donne. Mais encore une fois, vous imaginez un jeu où les règles, tout le monde est à l'aveugle.
Ouais.
Voilà, personne n'a de transparence. Donc tout le monde imagine que l'autre n'est pas honnête.
Dernière question, en 30 secondes, est-ce qu'il faut signer le Mercosur?
Non.
Ah oui, mais en même temps, c'est une ouverture de marché. Alors, il faut des clauses miroirs, il faut qu'il y ait les mêmes règles.
Je vais vous dire, très simplement, s'il n'y a que 30 secondes, le Mercosur, en échange des voitures, des biens, contre finalement de l'importation de nourriture. En une seconde, si on a des problèmes pour trouver de la nourriture à nos portes parce qu'il n'y a plus de producteurs, ce que le Mercosur va augmenter, vous ne pensez pas que tous les autres problèmes vont devenir bien plus grands? Il faut qu'à un moment donné, Le fait de se nourrir est essentiel. Protégeons ceux qui nous nourrissent tous les jours et tous les autres problèmes deviendront plus légers et solutionnables. Si on ne fait pas ça, tout va se compliquer.
Ok, merci. Merci Nicolas Chaman de vous battre comme ça pour les agriculteurs. Merci beaucoup. C'est qui le patron était donc notre invité. Et justement, c'est qui le patron? Ça peut aussi s'adresser à nos invités suivants. Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance pour le commerce. Guy Gras, qui est président du Conseil du commerce de France. Parce que hier, ils ont fait donc un front commun, les 12 fédérations dans le textile contre Chine. Il y a une responsabilité. Et puis, elle est encore, comme c'est bientôt Noël, c'est l'hiver. C'est peut-être la chance justement pour l'habillement. À tout de suite.
Business et la Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Suite du 18-19, justement à l'instant, on parlait de la responsabilité du consommateur. On peut aussi se poser la même question à propos de Chine. Au-delà de ceux qui ont un véritable pouvoir d'achat, c'est qui le patron? Nicolas Chaban nous disait que ça fait à peu près 25-30% de la population. Mais il y a quand même les 70% autres qui peuvent acheter autrement. Eh bien, c'est toute l'affaire du textile et de Chine. On va en parler avec Yoann Petiot, qui est directeur général de l'Alliance pour le commerce. Bonsoir, Yoann Petiot. Merci d'être là. Et puis avec vous, Guy Gras, qui est président du Conseil du commerce de France. Hier, vous avez présenté, vous avez 12 fédérations, vous avez présenté un plan et puis surtout la plainte que vous déposez contre Chine. Vous allez tout nous expliquer. Juste un point d'abord, Guy Gras a commencé. Le Conseil du commerce de France, vous pesez combien?
Le Conseil du commerce de France, c'est plus de 25 fédérations et nous représentons 70% à peu près du commerce en France.
D'accord.
Plus grande
tout commerce confondu, d'accord.
Avec toutes les grandes fédérations de modes de distribution, oui. Ainsi que tout un ensemble de fédérations de secteurs, bijouterie, jouets, etc.
Ok. Yoann Petiot?
Nous, l'Alliance du commerce réunit tous les grands magasins et toutes les enseignes de mode, habillement et chaussures qui sont présentes partout en France. C'est 150 000 emplois et 16 000 magasins.
Oui, d'accord. Donc, alors d'abord, on va revenir sur cette initiative que vous avez prise hier avec la réaction de Chine qu'on a maintenant. Voir ça juste en un mot, je ne sais pas qui veut nous résumer un peu exactement qu'est-ce qui s'est passé hier soir.
Je peux, si vous voulez, c'est une initiative inédite parce que c'est la première fois que 12 fédérations professionnelles et plus de 100 marques s'unissent pour rejoindre une action en justice contre Chine en concurrence déloyale pour demander au juge quoi ? D'acter cette concurrence déloyale et de réparer le préjudice subi par ces entreprises.
Oui. Alors, et ça se traduit comment ? C'est une plainte que vous avez déposée auprès du tribunal d'Aix-en-Provence.
C'est ça, tout à fait, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Oui. Et il y a quoi dedans ?
Yoann, toi qui as la manœuvre.
C'est très simple, en fait. Qu'est-ce qu'on reproche à Chine ? Depuis 5 ans, Chine est assis sur un modèle qui ne respecte pas nos règles et qui a été condamné à maintes reprises par les autorités françaises et européennes. Ça se présente comment ? Chine, d'abord, a acquis une clientèle de manière totalement illégale. Il a volé, il faut le dire, des données personnelles à des millions de clients.
Il les a volées comment ?
C'est la CNIL qui le dit. Il a violé les règles de protection des données personnelles en refusant aux clients la possibilité de ne pas être tracé sur son site internet. Vous savez, les petits cookies qu'on vous demande d'accepter quand vous allez sur un site internet.
Ouais, c'est bien, oui.
Vous ne pouviez pas le faire sur Chine, ce qui lui a permis de capter des millions de données sur les consommateurs français et après de leur envoyer des publicités mensongères. Faux rabais, informations trompeuses sur la qualité des produits.
Chine a déjà été condamnée.
Bien sûr.
Trois amendes.
C'est pour ça que c'était certain, ça a été acté par la DGCCRF. Il y avait 9 annonces de promotion sur 10 sur le site de Chine étaient fausses. Pire encore, certains clients pensaient faire de bonnes affaires, ils achetaient en réalité le produit plus cher après qu'avant l'offre de promotion. Donc ça, c'était inacceptable. Et puis surtout, la distribution de produits dangereux et non conformes. Il faut se souvenir du dernier contrôle mené par le gouvernement. C'est 8 produits sur 10 qui ne sont pas conformes.
Oui, c'est une action donc en référé, ça sera le 26 novembre. Vous demandez des dommages?
Alors nous, ce ne sera pas le 26 novembre. Le 26 novembre, c'est l'action portée par l'État. La première audience aura lieu le 12 janvier. Ce sera une audience de mise en état où ces 100 marques porteront en effet leur dossier devant le juge du tribunal du commerce.
Et vous serez tous là ?
Bien sûr qu'on sera tous là. On sera tous là au tribunal pour soutenir nos fédérations et nos métiers.
Oui. Vous demandez des dommages et intérêts que vous basez sur quoi ?
Oui, alors les dommages et intérêts qui sont réclamés sont basés sur une demande de « vous avez gagné de l'argent de façon illégale, le bénéfice que vous avez fait, c'est un bénéfice illégal, vous devez le restituer et il sera repartagé entre les différents plaignants.
Oui, alors Chine a répondu hein, depuis et a dit qu'il regrettait, il est regrettable que ces acteurs, donc vous, privilégient la confrontation judiciaire plutôt qu'un dialogue constructif et cette accusation est infondée.
Il n'y a pas de dialogue à avoir avec quelqu'un qui rentre chez vous par effraction sans respecter les règles. Aujourd'hui, c'est la justice qui dira le droit, qui constatera qu'il y a bien eu une concurrence déloyale et on l'espère, qui réparera le préjudice. Chine dit aussi qu'on appelle au boycott. Non, on n'appelle pas au boycott. Il faut bien comprendre, c'est pas une action contre la concurrence. Dans notre secteur et dans la mode que je connais bien, la concurrence, elle est partout. Personne n'a envie d'être habillé de la même manière. Donc c'est naturel qu'il y ait beaucoup d'acteurs, des acteurs français, européens, internationaux. Mais la liberté du commerce n'a de sens que si tout le monde respecte les mêmes règles. Ce n'est pas le cas pour Chine et donc c'est tout le sens de l'action qu'on porte en justice.
Ouais. En même temps, ils ont quand même accepté le dialogue. Lorsqu'on l'a vu, lorsqu'ils se sont installés, c'est via Frédéric Merlin, donc, qui est le patron du BHV.
Oui, enfin, dialogue, je ne sais pas avec qui, effectivement. Peut-être dialogue avec un partenaire commercial.
Ouais. Vous n'avez jamais rencontré ni l'un ni l'autre?
Si, moi, je les ai rencontrés parce que Donald Tang, et c'est connu, hein,
oui, Donald Tang, il était beaucoup à Paris.
Le président de Chine est très souvent à Paris. Il cherche à chaque fois à faire le tour de tous les interlocuteurs. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Nous, on les a rencontrés deux fois et à chaque fois, c'est le même discours de recherche de respectabilité, de crédibilité. Mais les faits sont là et ils ont été condamnés par les autorités.
Oui, et des condamnations qui ne sont pas neutres quand même. 40 millions de la part de la direction de la concurrence, 150 millions de la part de la CNIL, une décision du Premier ministre de la suspension du site Chine, suspension d'exploitation du site Chine. Il y a quand même maintenant des mesures extrêmement fortes qui arrivent enfin, je dirais enfin. Cela fait trois ans que nous clamons en disant la concurrence de Chine est totalement déloyale, Chine met sur le marché des produits non conformes, voire des produits dangereux, hein, en utilisant des données de consommateurs qui n'ont même pas accepté que leurs données soient utilisées, et en utilisant des promotions fallacieuses. En fait, on est plus proche, au Moyen-Âge, on les aurait appelés des bonimenteurs, ou des charlatans. Mais on n'est pas avec des gens qui travaillent sérieusement.
Ce matin, il y avait Arthur Lemoine, le directeur général des Galeries Lafayette, que vous devez bien connaître, qui était l'invité de la matinale du BFM Business avec Laure Closier, qui disait Chine est en totale contradiction avec notre positionnement, nos pratiques et nos valeurs. Oui. En même temps, donc c'est ce que vous dites, hein, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont quand même plébiscités par le consommateur.
Mais entendons-nous bien, ce n'est pas une action contre les consommateurs. Et nous, notre rôle n'est pas de culpabiliser le consommateur.
Ça revient pas à ça.
Mais non. Il est de l'informer, de dire au consommateur, attention, lorsque vous allez sur ce site-là, ce sont des fausses promesses, ce sont des faux rabais, et les produits que vous achetez sont dangereux. Après, nous, l'action n'est pas de culpabiliser des consommateurs dont on sait qu'ils ont un pouvoir d'achat extrêmement restreint. Mais il faut bien se rendre compte, il y a aujourd'hui des marques présentes sur le territoire français qui ont à cœur et qui travaillent pour offrir des produits qui sont accessibles à un bon rapport qualité-prix. Je peux vous citer plein de marques dans mon secteur qui est la mode, qui Yabi, Eram, Laal, Gémeaux, Primark, il y en a plein. Et ces gens-là, ils créent de l'emploi en France et ils respectent les règles. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la plateforme.
Moi, vous voyez, c'est plutôt le contraire qui me choque. Vous voyez, c'est plutôt le contraire qui me choque. C'est que des gens qui contournent les règles, qui n'appliquent pas les normes de sécurité, on est quand même sur des normes de sécurité, qui n'appliquent pas les normes de sécurité et qui en profitent pour faire des prix extrêmement bas et utiliser la faiblesse de consommateurs qui ont un pouvoir d'achat limité, c'est ça qui me choque.
Oui, mais en fait, pardonnez-moi, je me fais l'avocat du diable, mais en fait, vous vous réveillez là. Pourquoi vous vous réveillez? Parce qu'en fait, ils sont allés au BHV, ils sont devenus une enseigne.
Donc, pas tout à fait ça.
Vous n'étiez pas...
Cela fait trois ans que nous saisissons les pouvoirs publics sur ce sujet-là.
Oui, mais c'est ce que vous avez fait hier, c'était hier.
Oui, c'était hier parce que ça s'inscrit dans un calendrier de justice dont la première audience est au mois de janvier. Mais pensez bien que pour réunir 100 enseignes qui entrent en action et 12 fédés, on ne s'est pas réveillé il y a trois semaines. Mmh. C'est une action qui est pensée et qui est travaillée déjà depuis plusieurs semaines. Il se trouve que le calendrier judiciaire est celui-ci, donc on a communiqué hier Il y a eu ce qui s'est passé depuis 3 semaines, mais c'est pas lié à l'installation au BHV, c'est pas lié au partenariat avec MPKI, c'est lié véritablement, comme l'a dit Guy, au non-respect des règles depuis 3 ans. Et on a beaucoup alerté depuis 3 ans, et donc maintenant on passe à l'action en justice.
Et nous espérons que cette action-là va être suivie par d'autres fédérations et d'autres marques. C'est une action à laquelle d'autres fédérations et d'autres marques... On peut imaginer, je ne sais pas, par exemple la beauté. Tenez, le secteur de la beauté aujourd'hui n'est pas un secteur, il n'y a pas de marque encore aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. On pourrait très bien imaginer un jour que le secteur de la beauté nous rejoigne.
Et pourquoi, pourquoi pour l'instant ils ne vous suivent pas?
Ah, ça, je sais pas, il faut leur poser la question.
Ce sont des temps de préparation, encore une fois. Déjà, de mettre 100 marques dans la même action, parce qu'à chaque fois, c'est une décision individuelle. Hein. Il faut bien comprendre, c'est pas une action groupe, c'est chaque entreprise qui va, en fonction de son préjudice qu'elle estime avoir subi, demander la réparation en justice. Donc, il y a déjà le temps de réunir ces 100 marques, ces 12 fédés. Donc, c'est un travail en cours, j'ai envie de dire, et qui peut aller jusqu'au 12 janvier. Donc, on espère en effet que toutes les marques qui souhaiteraient se joindre peuvent le faire, en tout cas dans les prochaines semaines.
Vous voyez le caractère précurseur de cette action. C'est la première fois en France. C'est quand même une action qui est totalement inédite. Première fois en France où le commerce, on peut parler quand même globalement du commerce, le commerce se réunit, agit ensemble en disant « ça suffit, ça suffit ».
Vous dites quoi aux consommateurs? Enfin, ceux qui achètent, c'est des jeunes souvent chez Chine, j'ai été devant, par exemple au BHV, c'est vrai qu'il y avait une queue absolument gigantesque. Alors, bien, de l'autre côté de la rue de Rivoli, il y avait aussi.
Il y avait peut-être beaucoup de curieux.
Beaucoup de gens. Oui, mais là, c'était des gens qui allaient voir, bon, de curieux, mais pas que, même si aujourd'hui, c'est vrai que l'engouement s'est un peu délité. Vous leur dites quoi?
On leur dit, faites attention aux arnaques.
Ouais.
Faites attention à des gens qui, sous prétexte de petits prix, vont vous vendre des produits de mauvaise qualité, voire des produits dangereux, avec des discours trompeurs, et qui vont utiliser vos données personnelles sans votre accord. C'est ça que nous disons.
En fait, le grand enjeu, c'est la question du prix, forcément.
Bien
donc
sûr.
C'est la question, c'est pourquoi aujourd'hui, parce que c'est cher maintenant un vêtement, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, justement, on voit bien toutes les marques qui ont fait faillite là récemment, des noms les plus, célèbres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur du textile et de l'habillement soit vraiment en très grande difficulté? Pour vous, Yann Petitot, parce que c'est...
Pour moi, le sujet, c'est pas le prix. Encore une fois, on a des acteurs qui vraiment travaillent. Oui, mais on a quand même en France des acteurs. On a la chance en France d'avoir des leaders de l'entrée de gamme jusqu'au premium. Je vous ai cité quelques marques de l'entrée de gamme. On en a sur le moyenne gamme qui sont forts. On en a sur le premium aussi. Donc, on peut avoir... Et je vous promets que ceux qui sont sur l'entrée de gamme aujourd'hui, ils ont à cœur de maintenir un prix qui soit accessible pour le consommateur et quand même de leur proposer le meilleur produit. Pour moi, ça, c'est essentiel. L'enjeu de Chine, il est au-delà. Il est le fait qu'on reçoit et des conséquences sur nos marques.
L'enjeu, c'est que vous avez...
Sur nos marques, parce que vous nous
ça change tout le temps de modèle. Vous avez...
Nous,
des t-shirts, etc. pour 1 euro, 2 euros, 3 euros. Mais
les conséquences, elles sont là. C'est 23 000 emplois perdus ces 5 dernières années dans notre secteur, plus de 6 000 magasins fermés. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 775 millions de colis par an qui arrivent, qu'on ne sait pas contrôler, qui ne paient pas de taxes et qui font une concurrence à ces enseignes-là. Donc, l'idée n'est pas, bien sûr, de les interdire. La concurrence, elle est libre. Et fort heureusement, nous sommes dans un monde ouvert. Mais il faut que tout le monde joue les mêmes règles.
Oui, il faut quand même qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, pour reprendre les chiffres de Johan, aujourd'hui, c'est 12 millions de colis tous les jours. 12 millions de petits colis inférieurs à 150 euros qui arrivent tous les jours. Et ces 12 millions, qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, voilà. Mais en même temps, c'est des Français qui les ont commandés.
C'est des Français qui les ont commandés, bien naturellement.
Oui.
Mais est-ce que c'est pour cela, est-ce que le nombre doit justifier la pratique?
Non, c'est plutôt la non-conformité, mais non, mais bien
la
sûr.
La sécurité, excusez-moi, je vais plus loin, il y a des sujets de sécurité.
Tout ce qu'on veut, quoi, mais...
Et on a bien vu même qu'il y avait des sujets beaucoup plus graves qui ont justifié l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris.
Oui, bien sûr.
Où quand même il y a des poupées, ou des armes, ou des choses qui ne sont pas dans le commerce. Donc on a quand même un vrai sujet à régler.
Si on dépasse la Chine cette offensive, donc le résultat des courses sera pour vous quand, en fait?
Alors là, la première audience aura lieu le 12 janvier, qui va être une audience de mise en butin, et dans lequel sera fixé, dans lequel les enseignes porteront leur demande d'indemnité précise, et puis où on va fixer le calendrier de l'action. Et nous, on espère que vu le contexte et vu l'urgence, on ait un calendrier qui soit assez resserré pour avoir une décision finale. Donc ça, on l'apprendra le 12 janvier. Mais la première étape, ça sera au mois de janvier.
Et qu'est-ce que vous dites? Vous avez encore des liens avec Frédéric Merlin du BHV?
Alors nous, non, pas au niveau du CDCF. Johan, j'imagine que tu ne dois pas en avoir beaucoup non plus.
Moi non plus. Commerce de France.
Moi non plus depuis le partenariat. Mais écoutez, c'est une stratégie.
Depuis le partenariat.
C'est une stratégie qui est portée.
C'est lui qui a rompu les ponts ou c'est vous qui avez rompu les ponts?
Non, c'est nous qui avons rompu les ponts, comme nous l'avons fait avec Pimki au moment de l'annonce de son partenariat avec Chine. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, c'est un combat tellement important, avec le risque, un risque tellement fort sur l'ensemble de notre écosystème, que notre ligne aujourd'hui, elle est forcément obligée d'être claire. Et donc, malheureusement, quand on a pris à la fois le partenariat développé par Pimki et celui par le BHV, malheureusement, on a dû prendre une décision d'exclusion de notre fédération.
D'accord.
Pour moi, c'est un autre sujet. Ouais. Il y a la stratégie du BHV, mais qui est propre au BHV. Et il y a surtout, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt.
Non, on est d'accord, mais c'est aussi intéressant de voir un peu les raisons, peut-être derrière, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que finalement, ce n'est pas le partenariat la dernière chance pour le BHV?
En tout cas, c'est une vision très court-termiste. Ouais. Si c'est cela, c'est une vision
très court-termiste. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le...
Si vous voulez, je ne vois pas comment un chef d'entreprise peut construire un business model sur la base de produits non conformes, voire dangereux, à travers, et qui capte des clients de la façon dont la CNIL l'a établi.
Mais quand vous voyez
que vous aviez raison, c'est un grand magasin dont on savait qu'il était en difficulté, pour de multiples raisons, pour des raisons d'accessibilité qui sont très propres à Paris,
qui devient piétonne.
Pour aussi une question d'offre qu'il fallait peut-être arriver à réadapter. Mais aujourd'hui, quelle est la bonne stratégie? Nous, on avait compris que le BHV se recentrait plutôt sur son cœur, sur son quartier, se tournait vers le Marais. Aujourd'hui, est-ce que Chine est l'offre la plus adaptée pour ce grand magasin ici?
Oui, mais parce qu'il n'avait peut-être pas le choix.
Ce n'est pas
avec l'échéance, c'est pas vous que je veux dire, il y a l'échéance donc fin janvier sur les murs. Justement, Arthur Lemoine en parlait ce matin dans la matinale de BFM Business, le directeur général des Grands Lafayette. Il y a cette échéance-là. Donc, peut-être que Frédéric Merlin, il n'avait pas le choix.
Il l'a fragilisé, pour le coup.
Il a fait un choix, d'entrepreneur. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? C'est toujours le même débat.
Ouais. Là, je voyais, là, il y a 3 milliards de vêtements qui sont fabriqués. Il n'y a que 3% en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être, pour que, lorsqu'on voit le niveau de faillite, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour que le textile retrouve un peu de sa superbe, que les centres-villes, on ait des boutiques dans les centres-villes, dans les villes de l'Hexagone? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce sont deux sujets qui sont distincts. Le 3% de Made in France, c'est le sujet de la réindustrialisation. Oui. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet à la fois de compétitivité.
Oui, mais c'est les deux points forts, je trouve.
C'est à quel coût et vous avez raison. Donc, il faut jouer sur le coût du travail, tout ça, pour réinciter. Il faut jouer sur le savoir-faire aussi, parce qu'on a perdu ces industries depuis maintenant tellement longtemps qu'on n'a plus le savoir-faire dans notre pays. Donc, il faut jouer sur ces
deux côtés. Mais pourquoi il y a des Hermès et des Louis Vuitton, il y a des LVMH qui arrivent à faire des choses en France et que...
Très bien d'ailleurs. Ouais.
Enfin, là, vous parliez des sujets prix. Hein. On est quand même sur un pouvoir d'achat qui aujourd'hui baisse.
Non, là, j'étais plus sur la réindustrialisation.
C'est le
premier sujet. Non, mais je parlais des deux sujets.
Ouais,
il y a la réindustrialisation, puis après, il y a la question des centres-villes. Sur la réindustrialisation, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas en France à produire des textiles, l'habillement en France?
Ce ne sont pas les seuls. Je peux vous citer à l'autre spectre de la gamme de produits des enseignes telles que Jules et Kiabi qui ont réinstallé une usine de jeans dans le nord de la France. Beaucoup d'enseignes qui ont aussi quelques produits made in France. L'enjeu au global, c'est comment, si on veut arriver à produire en France, il faut qu'on s'intéresse au coût de sortie de ces produits, donc aux charges qui pèsent sur les entreprises. Mais c'est un sujet global qui ne touche pas simplement le textile, mais ce qui est un vrai sujet. Et puis, il y a quand même un vrai sujet au-delà du coût, qui est le savoir-faire aussi, qu'on a beaucoup perdu dans notre pays.
Voilà.
Et ça demande du temps aussi de recruter et de former. Donc, c'est en faisant avancer ces deux sujets qu'on arrivera à réindustrialiser. Et sur le commerce, par contre, dans nos centres-villes, là, on est plus aussi sur des questions de coûts d'exploitation. Il faut qu'on s'interroge peut-être sur le montant des loyers qui a très fortement monté ces dernières années face à une activité qui a plutôt eu tendance à diminuer. Donc, il y a des sujets, en tout cas, qu'il faut mettre sur la table. Mais je pense que le nouveau ministre a sorti un rapport aussi qui dit un certain nombre de sujets.
Oui, bien sûr, c'est pas ça que j'y pense, notamment avec Dominique Schelcher.
Après, c'est intéressant parce qu'il y a eu, hier la publication d'une enquête faite par la CCI. La CCI et le Conseil du commerce de France, justement, sur les attentes des commerçants en 2026. Et on voit apparaître quoi sur ce sujet de l'inquiétude du commerce en 2026? On voit apparaître que leur première inquiétude, c'est le pouvoir d'achat. Le premier facteur d'inquiétude, c'est le pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est une concurrence Internet. Et là, on voit bien, hein, c'est tout le sujet que nous parlons.
Voilà.
Et les loyers sont le troisième sujet. Et après, on a un thème beaucoup plus global qui est l'attractivité du centre-ville. Mais là, qui est la politique du maire, la politique de la collectivité et qui est une politique globale avec l'ensemble des acteurs locaux.
On est d'accord, ce qu'il y a, c'est que souvent, parce que je suis une consommatrice comme d'autres, quand vous êtes dans les centres-villes, c'est souvent des boutiques d'habillement qu'on recherche. Pas seulement, je suis désolée pour vous, puisque vous chapeautez tout le commerce en France. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on voit et il y en a de moins en moins.
Le taux de vacance, actuellement, il a monté. Ce qui est apparu dans cette enquête, le taux de vacance est un petit peu moins de 10,5.
Mais
alors, pour les villes de plus de 15 000 habitants.
Oui, mais si on regarde sur les villes de moins de 15 000 habitants, je pense que c'est le plus important.
Mais elle a monté, puisque l'année dernière, elle était à moins de 10, elle était à 9,4, 9,5, et elle a monté d'un point.
Alors, au moins, il y a quelque chose, on va finir sur une touche positive quand même. C'est l'hiver et c'est bientôt les fêtes. Il fait froid, bientôt les fêtes, donc les gens vont dans les boutiques, les gens vont acheter, non?
Oui, nous l'espérons.
Vous avez observé ça? Non, pas encore.
Oui, alors ce qui est quand même intéressant, c'est Noël, ça va être Noël. Noël, c'est quand même un grand moment pour le commerce. Hein. Pour beaucoup de commerces, le jouet, l'aliment, par exemple le chocolat, la beauté, voilà. Il y a énormément de commerces où Noël est un mois qui peut compter double, voire triple. Donc c'est un moment sur lequel les entreprises comptent beaucoup. On voit quand même que de plus en plus, les entreprises déclenchent les opérations Noël un peu plus tôt.
Oui, il y a Black Friday qui arrive en plus, donc c'est forcément évidemment. Ça modifie les comportements.
Et donc, il y a quand même une modification quant à l'achat Noël qui se déclenche un peu plus tôt que traditionnellement. Après, il y a beaucoup d'inquiétudes. Le sujet de Noël qui arrive, malgré cette grande fête familiale, qui reste une grande fête familiale, fort heureusement, et un fort moment pour l'achat en France, il y a quand même un contexte avec un pouvoir d'achat qui baisse. Ouais. Et puis, une inquiétude, un climat anxiogène. Il suffit d'avoir encore écouté notre chef d'état-major il n'y a pas longtemps.
Oui, ça, c'est sûr. Non, et pour vous, de votre côté, Yann Pecho,
pour les mêmes raisons, on est raisonnablement optimiste, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question de confiance pour le consommateur, et on espère qu'ils seront quand même là. Et puis, vous l'avez dit, le froid est enfin arrivé, et dans le secteur de la mode, c'est important pour l'hiver, donc on espère que ça va lancer vraiment cette collection d'hiver.
Voilà, au moins ça change. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Donc, résultat des courses pour Chine, le début, la première étape, c'est donc le 12 janvier à Aix-en-Provence. Vous demandez combien de dommages et intérêts?
Vous le saurez le 12 janvier, on se revoit.
Ah non, vous pouvez me le dire là, vous êtes là avec nous.
Non, justement, on le réserve au juge le 12 janvier, mais on
reviendra avec plaisir. C'est en dizaines de millions, c'est en quoi?
En centaines.
Une centaine?
Ce sont des sommes très, très significatives.
Plusieurs centaines.
Qui sont à la hauteur de
l'enjeu
illégalement en Chine.
De l'enjeu.
Plusieurs centaines de millions. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et évidemment, on va suivre tout ce qui va se passer. Voilà, c'est la fin de ce 18-19. Tout de suite, le journal de l'écho avec Stéphanie Collot.
Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.